Le Rachel Makadosh sur Masraé. Alors, et les Masraé Bene Israël. Voici les voyages des Bene Israël. Quand ils sont sortis de Mitzrayim, selon leur tribu, Beyad Moshe, Ve'aharon. Allez, dis les Masraé Bechoulé. Rabotenu Zichronan Viracha Amru. Kol Makom Shenema, et les, passe à la Kodmin. Mais c'est une question classique, remarque classique du Benisha, du Rachaim HaKadosh. Il y a chaque fois que c'est écrit Ele, c'est pour venir l'ifsol, quoi, ce qu'il y avait avant. Quand on dit Ve'ele avec un Vav, on vient faire un lien avec ce qu'il y avait avant. Quand on dit Ele, c'est pour rendre pas soul ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire, quand je dis Ele, Masraye, voici les voyages, sur ça c'est des voyages. Mais les voyages qu'il y a eu avant, c'était pas des voyages. D'accord ? Alors, on va voir de quel voyage on parle.
Mais c'est à chaque fois, c'était pas des voyages, c'est quoi là ?
C'est-à-dire, c'est pas des vrais voyages. Alors, on va voir tout de suite, il va l'expliquer. Ou bien, ma chez les fanés, nous, l'orainu shekadmu, benema masa'otulatam. Il dit, si on regarde maintenant ce qui se passe avant dans la Torah, on voit pas que Behemet, il y a des voyages. À part ces déplacements dans le désert, on n'y a pas eu d'autres voyages. L'oma shinit kaven akatu le poslam. Que le texte donc a eu la kavana de venir rendre pas sous les voyages d'avant. Il semblerait dire Kinit kaven ifsol kol masarot. Tous les voyages zulatam shieshnam ba'olam. Pour venir exclure toute la notion de voyage et de déplacement dans le monde. Voilà pourquoi la Torah a dit Ele. Voici. Si vous avez compris que le mot Ele, il est en trop. On aurait pu commencer la Torah. Les voyages des Béné Israël dans le désert étaient comme ça. Donc ça a besoin de dire voici les voyages. C'est quoi ce voici? Quand je dis voici, voici les voyages, ça c'est des voyages, mais ce qu'il y a avant, c'est pas des voyages. Alors avant, il a dit on a cherché, on n'a pas trouvé. Il dit alors peut-être que la Torah, elle a eu la kavana de quoi ? De nous exclure le voyage dans le monde. En général, un voyage, quel qu'il soit, c'est n'importe quoi par rapport au voyage qu'ils ont fait les Béni Israël dans le désert. Et les Shéroani, et là, il dit, ça, ça aurait pu être donc le Pshat. Il dit seulement, Roani Shelo Ayu Amasaot le Shevach. Et dit en vérité, les voyages qu'ils ont fait les Béni Israël dans le désert, c'est pas tellement une gloire. Ulvay shelo ayu ba'olam, girubam ayu le'isurin. Et alvay qui aurait pas eu ces voyages dans le désert, parce que la majorité de ces voyages, il y a eu des épreuves, c'était dur pour les Béni Israël, ils ont passé des moments très très difficiles dans ces voyages. Avon amelagelim, gamakodmim ayu derech rechoka lebalitenu rosh ve'yashuvu. Quand même, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont voulu changer d'avis, retourner en Égypte, etc. Dirti velo niham velo naham elokim derech eretz belishtim. Kadosh Baruch Hu, il les a pas fait aller dans un chemin direct. Pourquoi? Parce qu'il a dit peut-être ils vont changer d'avis. Donc en vérité, tous ces voyages qu'eux-mêmes ils ont fait, ils sont pas terribles non plus. Alamad tash elo ayu leratzon. Donc tous ces voyages n'étaient pas quelque chose de voulu. Ou les sader anachon, les mo'ader regel. Et pour Mamash, dire que c'est quelque chose de correct. Gam amruzal. Vekol netivotea shalom. Tous les chemins de la Torah, c'est la paix. Bikash Hakadosh Baruch Hu liten Torah l'Israël, que sheyatzu mimitzrayim, Hakadosh Baruch Hu donne la Torah quand ils sont sortis d'Égypte. Vayu cholkin elu im elu. Ils étaient mamash en discussion les uns avec les autres. Maketi vayisru misukot vayahanu beetam. Ils ont voyagé de Sukkot, ils se sont reposés à Etam. Ayu nosrayim bimriva vechonim bimriva. Mamash ils voyageaient en dispute, ils campaient en dispute. Comme ça, ils marquent les chachamim. Donc, on ne comprend pas. Comment, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ces voyages pour venir rendre pas soul tout ce qui n'est pas ces voyages? C'est bizarre. Il dit en vérité, dans ces voyages, il y a deux niveaux. Il y a premièrement, il y a les voyages qui étaient la première année avant le décret des espions. Et deuxième catégorie, et les voyages qu'ils ont fait à cause du décret des espions. Parce que normalement, ils auraient dû rentrer très très vite en Israël. Maintenant, à cause du problème des espions, hein, ils ne sont pas rentrés directement en Israël. Et donc, ils ont voyagé encore. Donc, il y a les premiers voyages jusqu'au décret des espions. Et il y a les autres voyages après le décret des espions. Shelo haya bedaat Hashem asot. Parce que Hashem, il a pas voulu faire une chose pareille. Hashem, il ne voulait pas les faire tourner dans le désert 40 ans. Lui, Hashem, il voulait les faire rentrer directement en Eretz Israël. Seulement, comme il y a eu l'histoire des espions, alors il les a fait traîner encore. Donc, ce n'était pas Mamash, Beretzon Hashem. Zulad, Mashé, Asu, Bishne, Shanim. Masaot elu grouim. Ces masaot là, ils sont pas bien. Mais erech shel ahareim par rapport à celle de la première catégorie avant les espions. La deuxième catégorie, les voyages, ils sont bidons. Okenegdam nitkaven Hashem b'mama. Ah, maintenant il dit le Rachaim Akadosh. Quand Hashem il a dit dans la Torah, Ele Masaot. Quand il a dit Ele Masaot ben Israël. C'était quoi la Kavana? Voici les voyages des Béni Israël. Ceux-là, les premiers voyages qu'ils ont fait jusqu'au décret des espions, ça c'est des voyages corrects. Mais les voyages qu'il y a eu après le décret des espions, ça c'est pas des bons voyages. Donc la Kavana de la Torah, quel voyage elle a voulu exclure? Elle a voulu exclure les voyages d'après le décret des espions. Vezeh Shiro la Katuv, Ele Masai Pirush, Amurim Besamur. Les premiers voyages dont on parle, Mama, juste à la sortie d'Égypte, ça c'est des voyages voulus, c'est des voyages bien. Mais tout ce qui est à part avec Kolzulatam, ils sont pas bien. Tous les autres voyages, ils sont pas bien. Parce que tous les autres voyages après les espions, c'était que des épreuves, que des galères, que des histoires. Oh, c'est bien super hein, l'explication qu'il a donnée. Voilà, il pose une question. Il dit, comment ça se fait que la Torah a voulu citer les voyages et pas les stations de repos, les endroits où ils se sont arrêtés? Pourquoi la Torah a insisté pour dire, ils ont voyagé de là à là, et ensuite de là à là, ou de là à là? Il fallait dire, ils ont été là-bas, 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 et je comprends comme un grand qu'ils ont voyagé de là à là. Pourquoi la Torah, pour me dire quel était l'itinéraire du peuple juif, elle ne m'a pas dit ils ont fait telle et telle et telle et telle et telle ville? Au lieu de me dire ça, elle me dit non, ils ont été de là à là, et ils ont été de là à là, et de là à là, et de là à là. Dis-moi, cite-moi les stations, les endroits où ils se sont arrêtés.
Là, il fait pirouche inverse dans Élé. Il dit en réalité, c'est que ceux-là, ils ne sont pas sous, et ceux qui étaient avant, ils étaient bien. On avait dit l'inverse au début.
Non. Élé, Masraï, Béné, Israël, ceux-là, les premiers, avant les espions, ils sont bien. Mais ceux d'après, qu'il y a eu après les espions, ils sont pas bien.
Il les cite tous.
Hein?
Il les cite tous dans la paracha.
Non.
Ils sont avant et après.
Alors lui, il a fait un pirouche. Il a glissé un petit mot. Il a dit Besamour. Il est pirouche. Amourim Besamour. Ceux qui ont été dit, maman, juste à côté. Et les Masraï ben Israël, Ashayatoum et Retzimsraïm. Les premiers voyages qu'ils ont fait depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la galère des espions, c'est pas marqué directement dans la Torah, mais lui, il découpe. Il dit, voilà, ceux-là, c'est des voyages. Pour exclure ceux d'après. Kilou, c'est un Elé assez spécial dans la Torah. Le Elé, en général, dans la Torah, hein, il vient exclure quelque chose d'avant. Et là, c'est un Elé qui vient exclure quelque chose après. D'accord? Alors, première question. Pourquoi la Torah nous cite les voyages et pas les stations? Deuxième question. Uma gam le divrehem, et selon les Chachamim Zal, Shamru, Mashal, Emele, Vekule, Vekule. Kan, Yeshnenu, Kan. D'accord, ici ils sont opposés, là ils sont opposés. Adkan. Je sais, Yoter, Bezichro, Nahanayot, Velobe Masaot, Gamlefi Midrash Aher. En plus, ils ramènent un Midrash. Où là-bas on voit que les Chachamim, quand ils ont expliqué un peu les voyages de Béni Israël, ils ont parlé des endroits où ils se sont arrêtés. Il dit, il y a même un autre Midrash qui dit, Shamru Sheizkira Masaot, Likvoa Lahem, Sachar Le'atid Lavo. Il dit, pourquoi il a cité les voyages? Pour leur fixer un salaire pour plus tard. Dirtiv, Yesasum Badmidava, Lefize Ayaraoui Limnot Ahanayot. Il dit, si c'est pour leur donner un salaire pour plus tard, pour dire combien ils ont galéré dans le désert, combien d'endroits ils ont été, fallait mentionner les Hanayot, les endroits où ils ont stationné. Pourquoi mentionner encore une fois les voyages? Yachen Idbaer, Alpidin Vratcha Emet. Pour comprendre ça, il faut aller chez les Anche Emet. Anche Emet, c'est qui? C'est la Kabbalah. Et dit Shamru, Shalichat Israël Bamidba Aita Levarer Nitzotzea Gdusha. Que toute la raison pour laquelle les bénis Israël ont galéré dans le désert pendant tellement longtemps, c'était en vérité pourquoi? Pour les varer, pour trier Nitzotzea Gdusha, les étincelles de Gdusha. Arrêt, dans le monde, il y a des étincelles de Gdusha, et les juifs, ils sont aptes, de par leur Avodat Hashem, à récupérer toutes ces étincelles de Gdusha. C'est pour ça qu'on est un peu éparpillés dans tout le monde. Et les juifs, quand ils se sont baladés dans le désert, alors en vérité, ils étaient tout simplement en train de ramasser les étincelles de Gdusha. Chez Anas Ish Abeliyaal Ahone Bamidbar Hashamem. Qui c'est le Ish, l'homme sans joug, c'est-à-dire l'homme qui rejette tout, qui réside dans le désert. C'est quoi? Le Yetzer Hara, les forces du mal. Elle réside beaucoup dans les déserts, dans les endroits désertiques. Et là-bas, elle a récupéré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étincelles de Gdusha.
Non, Rémez à quelqu'un qui n'a pas de rochement dans le désert.
Non, c'est, il te dit c'est la maison du Yetzer.
ça normalement. Quand il est dans les endroits déserts, c'est dans les endroits où c'est vite. Pas vite, c'est...
Ah, tu veux dire, bon, tu fais pas Remez quoi.
Parce que pourquoi ouais. Il parle de. C'est là, là, il veut rentrer.
Non, il fait mal à la Kabbalah là. Il y a Alpi Kabbalah. Il dit Alpi Kabbalah, on sait que les forces du mal elles résident dans les déserts. Et dans les déserts, les forces du mal, elles adorent attraper des étincelles de Kdusha. Maintenant, pourquoi les Bnei Israël, ils ont traîné dans le désert tellement longtemps? Pour récupérer justement ces étincelles de Kdusha.
Et comment ça...
Ah, comment ça marche, je sais pas. Non, pas je ils n'arrivent pas avec un balai et une pelle.
J'ai compris, non, mais c'est quoi ces étincelles de Kdusha?
C'est comme ça, arrête, toutes les forces du mal, elles se nourrissent de la Kdusha. Maintenant, elles puissent, je sais pas moi, elles prennent un juif, elles le descendent, elles l'esquintent, elles le massacrent, elles le font te rejeter toute la Torah. Elles pompent la Kdusha et elles la mettent dans le désert, parce que c'est leur maison. Elles font des descentes, elles prennent la Kdusha, elles la mettent dans le désert. Alors les Juifs, ils ont fait un petit tour dans le désert, histoire de récupérer tout ce qu'ils ont volé, quoi. Shisham, Kana, Mekomo, là-bas, il a pris sa place. Nahash, Makom, Nahash, Saraf, c'est l'endroit des serpents, des scorpions. Akrav, Vedarko, Sham, Adat, Hashem, Leoti, Bolo, Mipiv. Et le derrière de l'assemblée, d'accord, de vous, Ben Israël, de lui faire sortir ce qu'il a avalé de sa bouche. Et c'est ça la raison pour laquelle des fois les bénis Israël dans le désert, ils restaient dans un endroit un an. Et dans un autre endroit, 12 heures. Il y a des endroits où ils sont restés 12 heures.
Ah ouais.
C'est en fonction de la quantité des étincelles qu'il y avait dans le coin. S'il y avait plein d'étincelles, on reste longtemps. S'il y en avait pas un peu...
C'est quoi
Anas? Anas, il a pris de force. Au bureau, c'est Enkoa Barolam Shachol Asoto Zulat Kedushash Ashlema. Cette force maintenant de pouvoir récupérer les étincelles, il n'y a qu'une Kedusha Ashlema qui peut les récupérer. Ou Besot Shlemut Mehavrat Aklalut ou Mehavrat Apratut. Et maintenant, pour comprendre le secret de la perfection d'une assemblée en général, ou d'un prati, d'un homme prati. Kedusha Ashlema, Yashrina, Ve Israël, Ve Torah. La Kedusha Ashlema, c'est quoi? La Shrina, Israël et la Torah. Mais Havrata Pratut, M. Shishim, Ribo, Neshamot, Kedoshot. Et en prati, ça se décompose en 600 000 âmes saintes. Mais Havrata Klalut, ou Moshe Rabbeinu, Besod, Moshe Amo, Kihu, Ilan, Shimimeno, Notsetsu, Neshamot, Shishim, Ribo, Shayusham. Et quand on dit Moshe Rabbeinu, Moshe Imo, Moshe avec lui, c'est en vérité, c'est Alpi Kabbalah, c'est cet arbre d'où sont sortis les 600 000 Neshamot du peuple juif. Venistayahu, Be'ezer, Eloke, ils se sont aidés maintenant de Akadosh Baruch Hu, Bishchunat Shochen Abira, Veshavru Matlaot Ol, oh là là, il est parti là, Ubireru Birur Atsum. Donc dans le désert, il y avait les trois ensemble, il y avait la Torah, il y avait Israël et il y avait Akadosh Baruch Hu. Et les trois ensemble, c'est une Kedusha Shlema. Donc le voyage des bénis Israël dans les déserts, ils ont tout récupéré. Ok, faisait.
C'est
déjà
quoi mes chavous, Maltaot, Araval.
Ah ouais, ça, c'est la vérité. Attends, je vais regarder, c'est des trucs de. Attends. Ah, c'est dans Iov. Wow, je suis des psoukim de Iov, ça c'est.
Je pense que c'est Iov.
Ouais, il faudrait
c'est
voir dans.
Chavou,
c'est cassé. D'accord. Maltaot, ça vient peut-être de Tolat. Tlia, c'est Tolaim. C'est tolé. Le côté un peu pourri comme ça, un peu pourri de la chose, véreux. Toléa. Ou birero, birur, atsum. Et ils ont donc bien tout arrangé. Ok, fizé, tachli, tamase, hi. Keshe nosrim, ayu nosrim, imahem, koladome, lemin, akodesh. Lo bisman, ahanaya, shahadain, lo naasa, imo, dava. Il dit maintenant, on comprend. Que l'action. Quand ils voyageaient avec eux tout ce qui ressemble à cela, à Kadosh. Donc au moment où ils partaient d'un endroit, ils voyageaient d'un endroit, là, ils prenaient avec eux toute la Kdusha de l'endroit. Donc toutes les étincelles. Donc le plus important dans l'histoire c'est quoi? C'est la récupération des étincelles. Donc c'est pour ça que la Torah elle a cité les voyages d'un endroit à l'autre plutôt que les endroits de stationnement.
Regarde, on peut pas dire que chaque nom d'endroit c'était pas une étape pour eux.
C'était bien sûr une étape. Mais quel est le plus important dans l'étape? C'est le voyage ou l'étape? C'est le voyage. Pourquoi? Parce qu'en voyageant, alors ils ont. Ça veut dire que dès qu'on dit ils ont voyagé de Sukkot à ça, ah ça y est, super, ils ont pris les Nitzotzot de Sukkot.
On a dit que le temps qui restait, enfin ils prennent les étincelles pendant qu'ils sont.
Voilà, pendant qu'ils sont, mais dès que tu entends, qu'est-ce qui me montre qu'ils ont pris les étincelles? Pendant qu'ils sont là-bas, c'est le voyage. Ils sont partis de Sukkot. Ouais, super, ils ont pris les étincelles de Sukkot. C'est pour ça que pour moi, le plus important dans l'histoire, c'est quand ils ont bougé de l'endroit. Parce qu'ils ont pu les prendre à l'endroit, mais imagine, je sais pas, moi, ils restent là-bas, que Dieu nous en préserve, ils font des bêtises, paf, tout retombe là-bas. Par contre, s'ils ont pris, ils ont voyagé, c'est bon, c'est. Allez, récupérer.
C'est grave qu'ils disent que c'est quoi les stations et qu'on dit qu'ils ont voyagé, ça revient au même. On peut dire aussi que.
Non, parce que c'est vrai, quelque part, que si tu réfléchis et tu dis, bon, j'ai la station, donc Mistama, ils ont pris ce qu'il faut là-bas. Ouais. Mais qu'est-ce qui montre le plus quand tu racontes une histoire qu'ils ont pris les choses de là-bas? C'est le fait de dire, ils sont partis de là-bas, ils sont arrivés là-bas. Le voyage, le déplacement. Il dit, parce que dans le déplacement, hein, quand quelque chose de Kadosh se déplace, alors tout ce qui est Kadosh, il vient avec lui. Ah, c'est le but du monde. Nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, en vérité? Chacun de nous, il a son travail personnel, d'accord? Ok, nous, on a notre but dans la vie, on doit réaliser notre les mitzvot et la Torah. Mais en vérité, on est un pion d'un ensemble, d'un peuple extraordinaire qui s'appelle le peuple juif, qui est là pour récupérer toute la Kdusha qui a été perdue dans le monde depuis la faute d'Adam Harishon. Quand Adam Harishon, il a fauté, des milliards d'étincelles de Kdusha sont parties dans le monde. Et nous, les juifs, on est des spécialistes, des balayeurs professionnels de ça, d'étincelles de Kdusha. C'est le travail général du peuple juif. Nous, on a chacun notre travail personnel, mais il y a un travail global, général de tout le peuple juif, c'est récupérer toute cette Kedusha qui est dans le monde.
Mais nous, en restant là, par exemple, on n'est pas...
On est là.
On récupère.
T'inquiète pas, tu récupères.
C'est de voyager pour récupérer dans cette ville, dans cette
C'est pour ça qu'on a été à Paris, c'est pour ça qu'on s'est largué là-bas, c'est pour ça que de temps en temps, il y en a qui vont rentrer à Pessah à Paris, ils vont aller truc là-bas, ils vont se retrouver dans une bête à Knesset, dans un trou paumé, ils vont prendre le métro pour aller par là-bas, et ils récupèrent.
Donc il y a toujours ce moussac.
Ouais, il y a toujours ce moussac dans le déplacement. C'est pour ça que des fois, des grands sadikim, ils tournent dans le monde. Tu te demandes, mais pourquoi ils ont besoin de bouger? Les pauvres, ils sont. Il y en a qui n'ont jamais bougé. Parce que lui, c'est un autre travail. Lui, peut-être à l'endroit où il est. Chacun là où il doit aller. Ça, c'est une vision beaucoup plus profonde de ce qui se passe dans la vie d'un homme. Il y a un bonhomme, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, il m'a dit il a déménagé en 19 ans, 20 ans de mariage, 17 fois.
C'est pas mal.
C'est pas mal, hein? Il y en a, ça fait 18 ans ils sont mariés, ils n'ont pas bougé. La même maison. Ça dépend. Chacun, qu'est-ce qu'il a à faire? On sait rien du tout, nous. Nous, rien qu'on étudie la Torah, on fait les mitzvot et on avance dans la vie. Nous, on connaît rien, on doit pas se prendre la tête avec ça.
Moi aussi, je fais un petit coup.
Oui ? Et alors ? Il y a le maître du monde. Il peut faire bouger une personne tout en lui faisant croire que c'est lui qui a décidé. Hein. C'est pas difficile pour Hachem. D'accord ?
Je vais briser ça.
Il dit maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a montré la grandeur de ses voyages. Parce que c'est le voyage des Béné Israël qui sont sortis d'Égypte. Venitzrefou, Bekoura, Barzel, et en Égypte, ils ont été mamash, comme on dit l'expression, ils ont été. Nitzrefou, ça veut dire comme un bijou qu'on forme, qu'on brûle dans le brasier. Ben Israël, ils ont subi ça en Égypte. Chez Eretz Mitzrayim, ou basé Ayunishmotam, Reuim, Levarer, ils se sont tellement bien purifiés là-bas, ils ont passé des moments tellement durs que leur Neshamot, elle était capable de pouvoir bien sûr récupérer ces Nitzotzim de Kedusha. Mais comme Asher Yavou Shama, là où ils allaient. Et c'est marqué les Tzivotam. C'est quoi les Tzivotam? Selon leur groupe, leur tribu. Chez Yish Lemu Tatsava, la perfection de l'armée. Asher Tishre Alav Ashrina. Cette armée sur laquelle réside la présence divine, Akadosh Baruch Hu, la Shrina, Shehu Mispar Shishim Ribos, qui est le chiffre 600 000, ou Pahot Mi Misparze, et No Begeder Ashlimut. Et moins que ça, c'est pas parfait. C'est pour ça qu'on dit qu'un juif qui fait une bêtise dans le monde, c'est un manque énorme au Am Israël. C'est pas juste un petit manque, c'est un manque énorme. Parce que la perfection n'existe que s'il y a 600 000 âmes parfaites.
Chacun, on n'a pas une âme entière.
Ouais, c'est ça. Bon, maintenant, on est beaucoup plus nombreux et tout ça. C'est pour ça qu'il faut récupérer chaque juif. Un juif, il peut pas dire, bon, moi, ça va, je fais ma petite vie, je fais mon truc, je fais mon plan, je fais ma vie, j'essaie de m'arranger comme ci, comme ça. Il y a suffisamment de gens très religieux. Ça va, je vais pas faire trop de bêtises. Je vais essayer de faire ma vie. Il n'a pas le droit de parler comme ça. Pourquoi? Parce que sans lui, on vaut rien. Et les tzadikim, ils savent ça. Et les grands dans la Torah, ils savent. Le petit juif paumé là-bas du fin fond de Tel Aviv, là, et machin, il nous manque. Il nous manque. Sans lui, on vaut rien. Sans lui, tout le peuple juif, il n'est pas encore arrivé à sa perfection. Chacun de nous individuellement, on travaille dans la Torah, on aura notre récompense, on aura tout ce qu'il faut. Pas s'inquiéter. Seulement, il faut viser un peu plus haut. On a envie que le peuple juif soit parfait. On a envie que le peuple juif soit à fond. Et pour ça, il faut qu'on soit tous ensemble. C'est pour ça que les juifs, ils passent leur temps à voir qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Qu'est-ce qu'il fait l'autre, qu'est-ce qu'il fait pas. Alors, il y en a qui bougent. Et mais même en restant assis, en étudiant à fond la Torah, on peut faire des effets énormes. C'est pas qu'on peut faire. C'est que comme ça, hein, que ceux qui bougent, ils réussissent. Quelle est la puissance de ceux qui bougent? Comment ils arrivent à réussir, à ramener des juifs et tout ça? C'est parce qu'il y en a qui sont assis en train d'étudier des gemarot du matin jusqu'au soir sans bouger.
Non, c'est les mêmes.
C'est grâce à eux? Non, des fois c'est pas les mêmes. Des fois il y en a, ils bougent pas. Ils sont là, assis dans la gemara comme ça pendant 52 ans.
Qui bouge un peu.
Non. Ceux-là, de temps en temps, t'inquiète pas. Voilà. Dans leur petit quartier, ils doivent faire un petit cours, répondre une question à un ou deux élèves. Ou parler avec un tel, l'aiguiller dans la Torah.
Entraîner celui-là à partir.
Mais cette Torah, non, c'est pas ça. La Torah qu'ils étudient, l'énergie qui sort de cette Torah pure qu'ils étudient sans arrêt, ce qui est quelque chose de pas facile, du matin jusqu'au soir sans bouger, dans un livre. Cette puissance de Torah, c'est le générateur qui donne la force à tous ces gens.
Mais il faut que ce soit une transmission directe.
Non, il n'y a pas.
C'est ça, c'est... Mais non, si c'est... quelqu'un il étudie non. toute sa vie, tout
ça. Raphaïm Ivologine, regarde, écoute, Raphaïm Ivologine, il explique.
Il nous a enseigné, il a écrit les Fachachim.
Non, non, alors écoute, écoute. Raphaïm Ivologine, il explique que dans les mondes spirituels, il y a tous les mondes, d'accord? Il y a le monde de la parnassa, le monde de la santé, le monde de ça, le monde de ci, le monde de la joie, le monde de la tristesse, tout, 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 tout. Et tout en haut, il y a un monde qui s'appelle le monde de la Torah. Alors non seulement il est plus haut que les autres, mais en plus, c'est bizarre, c'est le générateur des autres. Ça veut dire que s'il n'y a pas de Torah, il n'y a rien en dessous. Ça veut dire l'étude de la Torah, c'est l'énergie de tout. S'il n'y a pas de Torah, s'il n'y a pas des gens qui étudient la Torah, le bonhomme il va sortir dans la rue à courir derrière les gens pour leur faire faire tchouva, il leur fera rien. Même s'il est beau gosse, même s'il parle bien, même s'il baratine bien, même s'il est tout ce que tu veux. La Torah Gdosha étudiée, c'est ça qui donne la force de tout dans le monde. S'il n'y a pas des gens assis en train d'étudier la Torah, il n'y a rien dans le monde.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas genre des étincelles, parce que lui il étudie, alors indirectement ça fait que l'autre...
Oui, oui,
non, c'est sûr. Parce que lui il a transmis à lui, et non, lui comme
non,
il a transmis
non,
à lui.
Non, non, c'est ce que je viens de t'expliquer. Mais non, je viens de t'expliquer quelque chose, tu es en train de dire le contraire.
Quelqu'un qui reste dans son coin, dans une maison, écoutez deux secondes, quelqu'un qui reste dans son coin, dans une maison, dans une prairie.
Grâce à lui...
Il étudie, on l'a jamais vu de sa vie celui-là.
Lui, grâce à lui...
Il a jamais transmis de Torah.
Alors écoute, grâce à lui, il va y avoir un petit jeune un jour, qui va aller au Japon, il va parler avec un juif. Comment le jeune il va réussir à parler au Japon avec un juif et lui faire faire tchouva? Tu sais comment? Grâce à ce petit bonhomme là-bas au fin fond dans un trou à Mehacharim là-bas qui a jamais mis le nez dehors.
Mais lui, il nous a transmis ça, une Torah.
Non, tu peux.
Il transmet rien.
C'est un générateur. Regarde, je te pose une question. Tu vois les lumières ici? Maintenant, il y a dans un trou au fin de fond de la terre, à 50 mètres en profondeur, il y a un générateur.
Il est branché ici.
Voilà, il est branché. Mais attends, mais comment il est branché? Tu le vois le générateur?
Mais il est branché quand même.
Ah ben, comment il est branché? Tu sais le bonhomme qui est à Mehacharim, tu sais comment il est branché? Par les ondes de Kdusha de sa Torah qu'il étudie. Ces ondes de Kdusha de la Torah, elles donnent l'énergie au monde entier de tout. C'est comme ça que ça marche. Raphaïm, il faut que je le montre écrit, tu vas voir. Raphaïm Ivologine.
Lui-même, il a transmis sa Torah.
Mais Raphaïm Ivologine, il t'explique. C'est pas qu'il a transmis sa Torah.
Il l'a transmis.
Attends, je vais te poser.
C'est pas qu'il écrit un livre.
Attends, écoute. Ça, c'est pas une question. Moi, je te fais lire le livre de Raphaïm Ivologine et tu vas lire, tu vas voir. Il écrit noir sur blanc. S'il n'y a pas d'études de Torah, tu montes au ciel et tu descends, tu arriveras à faire tchouva à personne.
Mais c'est vadaï, Rav, j'ai compris ça seulement.
Mais
ça,
comment
c'est,
mais
ça s'explique les fipchas, ça aussi.
Non, il n'y a pas du pchat. Mais c'est parce que c'est la vérité, c'est pas la vérité. Il faut apprendre à voir la vérité en face. La vérité, elle est que il ne peut y avoir de bracha dans le monde du business. Il ne peut y avoir de bracha de santé chez un juif. Il ne peut y avoir à manger dans le monde. Il ne peut y avoir de la lumière que tu vois là, cette lumière là. Elle n'existe que parce qu'il existe des gens qui étudient la Torah.
Mais ça contredit parce que je suis en train de vous
dire. Non, si ça contredit. Parce que toi tu dis, non, ce bonhomme qui est assis dans un trou à Mehacharim, lui, si jamais il est jamais sorti de son trou, c'est pas grâce à lui qu'il y a des
choses. Mais comment que son enseignant, lui, peut rester...
Rien. Il a pas écrit de livre. Rien. Il comme ça. Bloqué. Avec un livre comme ça. Toute la journée. Voilà.
Tu profonds aussi les yeux.
Il a enlevé les lunettes comme ça.
Ça, j'arrive pas à comprendre.
Parce qu'il faut que tu lises le Raphaïm Ivologine. C'est puissant.
Il y a même dans les mots parce qu'on est pas... peut interpréter ce que je viens de dire.
Mais non, Raphaïm Ivologine, il écrit noir sur blanc.
Que la Torah est elle
pas transmise. Il écrit pas. Ah voilà, Zizou, tu veux faire un nouveau livre. Il écrit pas transmise. Moi, j'ai pas dit transmise. J'ai dit la Torah, elle influe sans que le type il bouge de son trou. Tu as dit, elle influe par la transmission du message. Moi, je te dis, le bonhomme, il est dans un trou. Il parle à personne, rien. Il dit pas un mot. Il est dans un trou en train d'étudier, sérieusement. La puissance, l'énergie de cette Torah, elle se dégage dans le monde. Et elle donne de la force à tout le monde pour tenir.
Alors, je vais poser une question. Comment ça se fait que les rabbinim, ils sortent pour faire du zikouya?
Ah, alors non, écoute. Parce qu'il y en a qui sont faits pour ça. Il faut qu'il y en ait qui sortent. Et il y en a qui restent dedans. Mais il faut bien que ceux qui sortent, il faut qu'ils sachent une chose. S'ils ne réussissent, soit par leur propre énergie à eux, quand ils restent enfermés pendant des journées et des journées et des journées et des journées, soit, et ils sont aidés aussi, par ceux qui sont dans des trous et qui ne mettent pas le nez dehors.
Mais si on dit que maintenant c'est un flux, comme vous avez dit, avec des mondes, comme ceux qui sont dans le trou, ben on n'a qu'à rester tous dans le trou et ça va influer. Pourquoi il y a besoin qu'ils sortent? Pas besoin qu'ils sortent, même si on a un talent de sortir, pas besoin.
Parce que peut-être il n'y a pas des gens capables aujourd'hui d'étudier avec tellement déjà d'énergie dans un trou qu'il n'y a pas besoin de sortir. Ça aussi c'est possible.
Tous les rabbinis me disent que quand ils sortent, c'est contre l'anglais, ils aiment rester étudier. Ils aiment rester.
D'accord, il n'a rien à nier alors. Parce que chacun, il y a de tout dans le monde. Il faut que tu saches qu'il y a toutes sortes de catégories, mais il faut savoir qui est le moteur. Il y a de tout dans le peuple juif. Il y a ceux qui sortent, il y a ceux qui restent assis. Mais il ne faut pas confondre. Celui qui reste assis dans un trou avec la Gemara, c'est le pilier du monde. Le monde entier repose sur lui. C'est lui l'énergie, c'est lui le générateur de tout.
On n'est pas ma question. Comment ça fait qu'ils sortent les autres? Ça sert à quoi?
Mais je t'explique. Alors je te réponds. Parce que si jamais, pour ça, il faut un bonhomme avec une énergie et puissance énorme. Il faut un type d'une gdoucha énorme. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de bonhommes qui sont capables d'étudier avec cette énergie pour qu'on n'ait pas besoin de sortir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh il a fait un mouvement dans le monde où le bonhomme il sort. C'est-à-dire, il faut et l'énergie de sortir. Et le bonhomme dans un trou. Mais s'il n'y a personne qui reste assis en train d'étudier, tout le monde est dehors en train de courir, personne ne pourra faire tchouva aux gens.
Un bonhomme qui a cette énergie dont vous parlez, c'est son tarlit. Maintenant, lui, il a le potentiel pour étudier et rester étudier toute sa vie assis. Il n'a pas l'obligation de sortir pour faire du zikouya.
Non. Il a l'obligation, un tout petit peu, d'aider les gens qui sont autour de lui, là où il étudie. Il n'est pas obligé de sortir. Il a un peu d'obligation, attention, de donner un petit peu de son temps pour aider un peu les gens, pour donner un peu. Il a une obligation, il faut donner un petit peu.
Pourquoi?
Donner, mais pas courir dans la rue, il n'est pas obligé de courir dans la rue.
Même autour de lui, pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il y a ce Inyan, l'ilmod ou le lamed. Il faut étudier, il faut enseigner un peu. Donner un petit peu.
Mais c'est que je suis en train de vous dire.
Il a cette obligation de donner un peu. Mais moi, ce que je veux te dire depuis tout à l'heure, que même s'il enseigne un peu, c'est pas ça qui va amener l'énergie dans le monde. L'énergie dans le monde, elle vient tout simplement par le fait qu'il est assis comme ça en train de réfléchir. Voilà. Non, c'est pas ce que c'est que la Torah. On est à des milliards de kilomètres. La Torah, c'est d'une puissance énorme. Quand tu lis un mot de Torah, que tu es concentré, que tu es pur dans ton cœur, tu envoies des ondes dans le monde entier. Tu protèges un juif qui traverse une rue en Australie. Une voiture, elle devait l'écraser. Et parce que tu étais à ce moment-là concentré sur Tosfot et que tu as bien étudié ton Tosfot, boum, le type et la voiture, elle va pas le toucher. C'est un truc de. Il faut être persuadé de ça. Sinon, c'est grave de pas. Il faut maman savoir cette idée dans la tête. Savoir combien la Torah c'est puissant. La Torah c'est pas Stam, une science, un machin, la fac des sciences talmudiques. C'est pas. La Torah c'est du feu. C'est le générateur du monde. C'est la base du monde entier. Sans ça, il n'y a rien. Sans s'il y a des bonhommes. C'est marqué dans les livres. Si on arrête d'étudier la Torah. Une fraction de seconde, le monde entier disparaît. Cette table disparaît, cet appareil disparaît, cette montre disparaît, tout disparaît. Comment, quel rapport ce tabouret en plastique avec une Gemara? Quel rapport? Si les juifs ils arrêtent dans le monde, si pendant une fraction de seconde, dans les 24 heures de la journée, il n'y a pas un juif qui étudie la Torah, ce tabouret il disparaît. Il est pulvérisé.
C'était qui le Rav qui a étudié
au moment où personne n'étudiait. Le père de
Chacham Tzvi. C'est Rafi Tussi qui a écrit.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié une seconde pendant que personne dans le monde n'étudiait. Il a fait tout le chef de. C'est qui Chacham Tzvi?
Il a dit il faut cuisiner pour.
Bon, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire, étudier sans arrêt. On va bien tomber sur la seconde, non? Sans arrêt. Je connais pas bien. Bon, les mains assez. Vous avez compris la force? C'est ça la force de la Torah, Kdosha. Où c'est qu'on est parti? D'où on est parti? Ah ouais, alors là, mashalem.
Faut plus toucher la cabane.
Ah ouais, les nitzotzot de Kdosha. Pour conclure l'histoire, c'est comme ça. C'est que Akadosh Baruch Hu nous demande d'étudier la Torah pour récupérer tout ce qui se passe dans le monde. Maintenant, si quelqu'un il vient et vous dit « Ouais, vous êtes des parasites !» Et vous êtes là assis dans un trou et vous participez pas à la construction du monde et vous auriez été mieux dehors en train de payer vos impôts et tralala et tralala et tout leur cinéma. Tu lui dis écoute mon vieux, si toi quand tu signes un contrat tu gagnes ta vie c'est grâce à moi. Il faut que tu le saches bien, il faut que tu te le rentres bien dans la tête. Si toi quand tu bosses comme un malade et que tu as la bracha dans ton business, c'est grâce à moi, moi qui suis assis et sans arrêt en train d'étudier la Torah. Comme il a dit le Rav tout à l'heure, si un soldat il est protégé à l'armée, les pauvres petits soldats de 18-19 ans qui sont envoyés par des rigolos, si ces petits soldats, le pauvre il est en panique, il est en danger, tout ça, par qui il est protégé? Il est protégé par ceux qui étudient la Torah. Il n'y a que ceux qui étudient la Torah qui protègent. La Torah c'est un bouclier énorme. Le comprendre, je ne sais pas si on arrivera un jour à le comprendre, parce que c'est bonhomme, il est là en train d'étudier, il se casse la tête, en train de réfléchir, très vétré, ça fait qu'à des rabbanan de Raïta. La balle, au lieu d'arriver sur le soldat, elle va passer à droite. Quel rapport ? Très vétré. Avec ce fécal. Il y avait deux balles avec deux balles. Ça fait que de Raïta, ça fait que des rabananes. Et la Ktouba, et l'autre, elle s'est mariée. Et l'autre, elle est truc, et les machins. Il se prend la tête avec des mariages et des trucs. Et voilà, ce soldat, il est épargné. Ce soldat, il est épargné. Les autres, ils ont voulu tirer dans leur tank, leur bombe, elle est retombée sur eux. Pourquoi ? C'est grâce à la Torah qui est étudiée. Comment ça marche ? Je sais pas comment ça marche. Mais c'est la ségoula de la Torah, c'est la puissance de l'étude de la Torah. C'est la puissance de l'âme Israël. D'ailleurs, les plus puissants dans l'âme Israël, c'est les grands, les Gdolador, qui sont dans la Torah du matin jusqu'au soir. C'est eux le dirigeant de tout. C'est eux les puissants. Sauf quand ça fait tourner en rond du matin jusqu'au soir, ils se tournent toujours vers eux.
Mais j'ai une question. Si par exemple on veut faire du bien, c'est-à-dire qu'on a la parnassa et qu'on veut faire du bien, si on veut régler par exemple le problème de la pauvreté, c'est mieux de donner à un religieux dans un pauvre. C'est mieux de donner
la tzedaka quand on est plus petit. C'est des questions compliquées, ça. Tu poses des questions de halakha, comment répartir son argent. C'est pas simple, ça. C'est très compliqué comment répartir son argent. C'est très compliqué comment répartir son argent. Bevadai, que si tu as deux pauvres devant toi, un pauvre qui est en train d'étudier la Torah du matin jusqu'au soir, il maintient le monde. D'accord ?
La source du problème, voilà, pour réparer, le mieux c'est de donner de l'argent pour les gens qui étudient.
C'est ça, voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Du fait que celui qui étudie, il amène la bracha dans le monde. Bevada, que si tu aides quelqu'un qui étudie, tu amènes la bracha dans le monde. Mais alvaï que tout le monde pense comme toi. Parce que les gens, quand ils viennent faire un don dans une yeshiva, tout juste, il ne faut pas leur embrasser la plante des pieds, tu comprends? Parce que le bonhomme, il a l'impression hein, qu'il a fait un geste très joli. Mais tu as fait tout simplement, c'est un boomerang, c'est tout. Hein. Tu as mis ton argent, hein, t'inquiète pas. Tu es tout simplement en train de... Comme on dit, tu es en train d'envoyer de l'énergie, de l'essence dans le générateur. Tu es en train de miser. En fait, tu mises pour toi, tout simplement, c'est tout. Tu viens donner au générateur. C'est tout. Maintenant, les bonhommes, ils ne sont pas conscients de ça. Les bonhommes, ils ne sont pas
conscients.
Mais tu as raison. Mais le mieux, c'est sûr. Quand tu maintiens les gens qui étudient la Torah, tu maintiens le monde. Ça, c'est sûr. Mais les gens, ils sont pas clairs comme ça. Les gens, quand ils te font un don dans une yeshiva, tu as pas mis le tapis rouge, le machin, ils récupèrent le chèque. Tu as compris?
Vadaï, s'il y a un pot en face de lui qui est en train de crever de manger, c'est ça qu'il est en train de dire.
Non. Tu as un bonhomme, il arrive devant toi à genoux, il est en train de mourir de faim. Vadaï, il faut le renourrir tout de suite.
Il est en train de manger devant toi.
Vadaï.
T'as dit le pauvre, t'as parlé du pauvre, non?
Non, si tu as devant toi un pauvre en train de mourir de faim, il faut lui donner à manger. Vadaï. Vadaï.
Tu pourrais entendu ça, mais
non, il dit clalit, en général, pour régler le problème, à qui il faut donner? Au monde qui étudie la Torah.
C'est les khatrilas, mais non, dans un bédiavad.
Bah, bataille, tu as un pauvre devant toi en train de mourir de faim, mais tu as la mitzvah la plus grande au monde qui est devant toi de sauver un type de la mort.
Mais non, de dire ce qu'il a dit, mais non, on n'est pas trop tard avancé, mais non, dans la destruction de ce qui se passe en ce moment.
Non, on peut toujours tout récupérer, seulement il n'y a rien qu'il faut, il faut remettre les boulons à leur place aux gens qui ont de l'argent, c'est tout. Leur expliquer que la base elle est dans la Torah. À partir du moment où le bonhomme il a la base dans la Torah, il va s'esquinter, il va avoir, normalement, il devrait avoir la bagarre. À l'entrée des yeshivot, qui va mériter de donner? Normalement, d'après le Emet, les gens intelligents, ah oui, il y avait quand il y avait ça.
Ils payaient les trucs,
Combien il y avait, quel pourcentage? Il y en a quelques-uns qui sont conscients. T'as des milliardaires qui sont conscients de ça. Et bien mettre le type, quand il donne, pour lui, presque il embrasse la main du Rosh Yeshiva d'avoir accepté l'argent. Il y a des milliardaires, aujourd'hui il y a des gens comme ça, Baruch Hashem. Mais combien? Quel pourcentage?
C'est quoi ta question?
Oui, ah, ça c'est un long travail ça. C'est pas en une discussion de 5 minutes, ça c'est. Ça c'est, il faut les amener à des cours de Torah, il faut que le bonhomme il se rapproche de la Torah, il faut qu'il rentre dans la vérité de la Torah, c'est pas simple. C'est pas simple, il faut changer toute une vie. Le bonhomme riche, pour lui, le rabbin il est là devant lui, il l'embrasse, il lui fait un cadre 3 mètres sur 4 parce qu'il a offert je sais pas quoi. Il non, c'est très dur. Bah, tu lui dis, il est dur d'une image du générateur, il va te faire, écoute mon vieux, moi je bosse 23 heures sur 24 dans mon bureau, le générateur c'est moi, hein. Je bosse comme un malade, c'est moi qui parle avec les fournisseurs, c'est moi qui fais les contrats.
Avec une vraie image.
Une vraie image, même tu peux lui faire un dessin. Les gens riches sont tellement imbus de leur personne, la richesse est une épreuve tellement dure, tellement difficile dans le monde, que tu peux même pas juger une personne riche. On n'est pas là pour juger, on ne juge pas, rien qu'on constate que la vérité, elle est que la personne, à partir du moment où elle a du pouvoir avec l'argent, c'est très très dur. Attends, un bonhomme milliardaire, il va voir un bonhomme avec un costume là, 100% polyester, un chapeau sur la tête, là, une chemise blanche de je sais pas d'où elle sort, devant un livre de Gemara, il va dire c'est grâce à toi que je suis blindé. Attends, mais il va... Ah, ben, le jour où il te sortira ça de la bouche, de quoi s'évanouir.
Et s'il voit maintenant le même avec un costume Dior, super classe, ça change quelque chose au moins, tu
penses? Non, à lui peut-être, c'est son fournisseur en je sais pas quoi. Ouais, peut-être grâce à lui, il a une part dans sa richesse. Pourquoi? Parce qu'il est très sympa avec lui, il lui fournit tous les machins et tout. Tu comprends? Mais le bonhomme avec une Gemara là comme ça. Ah, tu vas bien, ouais. C'est toi mon fournisseur? Mais c'est moi ton fournisseur! C'est moi ton générateur! C'est moi ton énergie! C'est la Torah ton énergie! Sans moi, t'es zéro, t'as rien!
Ah, mais à la
Khalema
c'est comme ça qu'il
faut parler. À la Khalema c'est, il faut jamais se retrouver devant des donateurs dans l'esprit que le bonhomme il te fait quelque chose. Il faut aller dans l'esprit que c'est toi qui lui donnes un sroute.
À la Khalema c'est, est-ce que ça se passe comme ça?
Non, ben malheureusement, ben attends, mais j'ai... c'est Avodat Hashem. C'est l'épreuve du riche. L'épreuve du riche, c'est de comprendre que quand il fait un don, il a un mérite énorme.
Les yeshivot, quand ils vont démarcher les donateurs, est-ce que vraiment ils
leur... qu'est-ce que tu veux, il faut bien faire vivre les yeshivot. Alors t'as plein de rabbanim, t'as plein de rachi yeshivot qui font un petit peu des salamalek et tout ça. Je sais pas jusqu'à combien ils ont le droit, jusqu'à combien ils ont pas le droit. Ça encore, c'est dans la Torah, c'est très compliqué. Ouais, qu'il est rentré avec la boue et tout ça, ouais.
Il a mis à zéro alors que celui qui était juste avant, il était rentré.
La grande classe, machin et tout. Non, c'est ça, mais bien sûr. Il faut partir dans l'esprit toujours que c'est lui qui a un sroute de donner. Et s'il n'a pas donné, le pauvre, il n'a pas mérité.
Dans vos gars là, par exemple, est-ce que quand il y a des personnes qui se présentent, est-ce que vous leur expliquez vraiment ce que c'est de donner un yeshiva?
C'est très difficile d'expliquer comme ça sur un pied à quelqu'un qui vient dans un dîner gala ou d'un truc comme ça. C'est pas possible, tu peux pas. C'est... Ce qu'on est en train de parler maintenant, c'est mamage des années de réflexion, des années de discussion, de parler, de mamage de cracher tout ce qu'on a dans le ventre. Une fois que tu discutes, tu parles et tout ça, et petit à petit, ça te rentre dans la tête. Ça prend du temps, ça, avant de devenir quelque chose de vraiment, mais fort, hein. Pas Stam, tu le dis comme ça parce que tu l'as écouté. Mais pour le ressentir vraiment au fond de toi, c'est pas simple, hein. Un milliardaire, il vient et te dit, ah ben, je te donne pas, c'est dur. Tu te dis, mince, j'ai raté. Non, j'ai pas raté, c'est lui qui a raté. C'est pas moi qui ai raté, c'est lui qui a raté. Vous connaissez l'histoire d'un grand rocher, c'est une histoire vraie, hein. Il a essayé de contacter un milliardaire qui était incontactable. Bassov, il a réussi. Le milliardaire, il lui a fait, écoute, demain après-midi, entre 3h et 3h05, j'ai 5 minutes à t'accorder, c'est tout. Si en 5 minutes, tu arrives à me convaincre, tu auras un chèque de folie. Bon, le Rosh Yeshiva, il arrive à 3h pile, il rentre, il voit le bonhomme, 15 téléphones sur la table, il est avec 250 appareils comme ça de tous les côtés, il raccroche, il lui fait, voilà, j'ai 5 minutes pour toi. Regarde, il lui fait, écoute, moi j'ai un business, j'ai un business malade, hein, j'ai un business. Est-ce que tu veux un petit ventilateur au Gainam? Comme ça, c'est une histoire vraie, hein. Il a dit, est-ce que tu veux un petit ventilateur au Gainam? L'autre il le regarde comme ça, il lui fait, il savait qu'il n'était pas trop religieux. Il fait, ouais, il fait, voilà, ben, c'est le chèque pour la Yeshiva. T'auras un petit ventilateur à Guéhinnom. Et il a fait le chèque. Il a fait le chèque. Il a pas, même pas un masgan, hein. Même pas un masgan, hein, un ventilateur.
Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas le masgan encore.
Il lui a dit, est-ce que tu veux un ventilateur au Guéhinnom? L'autre, il a bien réagi, il lui a fait, ok, je veux. Il a fait un super chèque. Là, il lui a donné.
Tu vas sur place.
Ah mais c'est ce qu'il fait le Rosh Hashiva. Le Rosh Hashiva, il y a plein de gens qui lui téléphonent, il dit ouais je veux faire des dons, il fait non, je veux pas de ton argent, je veux que tu viennes à la Yeshiva. D'abord tu viens à la Yeshiva, après on discute d'argent. Si tu viens pas à la Yeshiva étudier ou tu étudies pas ou tu machin, je veux rien savoir. D'abord tu viens. Ah parce que d'abord tu le prends le type, tu lui mets un peu de thorax, de chat dans la tête. Tu travailles sa neshama, nous on n'est pas des gratteurs d'argent. On n'est pas des gratteurs d'argent. On attrape sa neshama. Le rave le plus important pour lui c'est d'attraper la neshama du bonhomme. Qu'est-ce qu'il en a à faire de l'argent?
Il y a une question pratique de l'argent, par exemple, des gens, c'est-à-dire les yeshivas, quand elles reçoivent des dons, elles doivent vérifier tout ça.